Donc je vais passer maintenant la parole donc à Nathalie Perrin-Gilbert pour qu'elle nous fasse part de sa réaction. Et puis ensuite, je continuerai avec les autres intervenants.
Merci beaucoup. Alors vous vous doutez bien que je n'aurai pas tout à fait la même lecture de la loi SRU et de ses effets. Tout d'abord sur la notion de logement social et de création de logement social avant d'en venir à la loi elle-même. Créer du logement social, c'est quoi? D'abord, c'est créer du logement. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de chiffres issus d'observatoires qui nous disent, globalement, il manque 900 000 logements en France pour répondre à la demande des ménages ou personnes qui cherchent à se loger. Alors, ces 900 000 logements, on peut les trouver soit en construisant des nouveaux logements, soit en ayant une action sur le parc existant. Il ne faut surtout pas oublier le parc existant, et notamment le parc existant vacant ou peu entretenu. Mais bon, il y a un besoin de création du logement, et le logement social, évidemment, y participe. Créer du logement social, c'est ensuite créer du logement dont les loyers sont accessibles. Et ils sont accessibles à 60% des ménages en France. Donc ce n'est pas créer du logement pour une petite minorité de gens très peu insérés ou très en difficulté, c'est créer du logement pour plus d'un ménage sur deux, c'est-à-dire monsieur et madame, tout le monde. Créer du logement social, c'est ensuite créer de l'emploi. Et on sait que l'industrie du bâtiment, eh bien, c'est un gisement d'activité et d'emploi. On dit habituellement créer un logement, c'est deux emplois pour, en termes d'activité économique. Et on sait bien, et on l'a vu dernièrement, et les bailleurs, je pense, ne nous diront pas l'inverse, les bailleurs sociaux, c'est que le logement social a toujours un rôle qu'on appelle contracyclique. C'est-à-dire que quand, pour parler familièrement, les programmes de promotion privée se cassent un petit peu la figure du fait de la crise, et de la baisse de la demande des ménages qui ne peuvent pas se louer au prix proposé, eh bien, on fait appel aux bailleurs sociaux, on leur propose de reprendre un certain nombre d'opérations en cours. C'est quand même globalement ce qui s'est passé depuis 2008, et ça, c'est mon point de vue politique, je me permets, puisque je suis une responsable politique, de vous le faire partager. Je pense que plus qu'une réelle volonté de créer du logement social, il y a eu de la part du gouvernement une volonté de venir à l'aide à un certain nombre de promoteurs et d'opérations qui étaient toujours, pour parler familièrement, en panne. Donc créer du logement social, c'est répondre à un besoin partagé par plus d'un ménage sur deux, et c'est répondre à un plan de relance de l'économie, ou en tout cas soutenir l'économie. Et enfin, et j'en viens au cœur du sujet d'aujourd'hui, créer du logement social, c'est construire la ville, c'est construire le tissu qui relie la ville aux zones périurbaines et aux zones rurales. C'est construire la ville tout en luttant, et c'est dans ce sens que nous travaillons aujourd'hui, alors aussi bien les élus, et je pense que la ville de Lyon et l'agglomération sont un bon exemple, que les responsables politiques, c'est construire la ville en luttant contre l'éclatement des fonctions, avec la volonté de mettre fin à une sorte de séparation des fonctions des hommes dans la ville. C'est-à-dire à la séparation des espaces. On ne veut plus construire une ville avec des espaces où l'on dort, des espaces où l'on travaille, des espaces où l'on commerce, des espaces où éventuellement on se cultive, mais bien essayer de réunir ces fonctions à toutes les échelles territoriales, et donc ça impose de réfléchir où on construit du logement, auprès de quelles infrastructures de transport, dans quel bassin d'emploi, et quel type de logement, évidemment, on va construire dans ces différents échelles. Et là, on voit bien, même si on ne parle pas sur ce point-là de quotas, qu'on a ce besoin de réflexion, de projection, d'organisation, et n'ayons pas peur des mots, de planification. Pour poursuivre sur ces gros mots que peuvent être les mots planification ou quota, enfin, allons-y, j'ai envie de dire aussi que la loi et ses rues, et la construction de logement social a un fort impact, ça découle de ce que je viens de dire, en termes d'aménagement du territoire. Bon. Et c'est à ce moment-là qu'est intervenue et qu'intervient la loi SRU. En matière d'aménagement du territoire, la loi SRU, elle pose un principe fondamental, qui est de dire qu'il faut introduire une égalité, une solidarité entre les territoires, et qu'il faut répartir l'effort en matière de construction de logements sociaux. Voilà. En gros, en finir avec des zones ou des communes ou des territoires très fournis en logement social, et on sait bien sur l'agglomération lyonnaise, aussi bien sur la ville, certains arrondissements, que sur l'agglomération lyonnaise, certaines communes qui avaient un très fort pourcentage de logements sociaux, et puis d'autres communes ou d'autres arrondissements de Lyon qui avaient très peu de logements sociaux, et on voit bien les disparités. Et donc il y a eu cette volonté à l'échelle de la ville de rééquilibrer l'effort entre les territoires. Et finalement, la loi SRU, elle pose ce principe à l'échelle nationale. Alors cette loi, elle a introduit ce principe et elle l'a assorti d'une obligation, donc l'obligation pour toutes les communes d'avoir 20%, je schématise un petit peu, 20% de logements sociaux sur leur territoire. Alors là, on a eu une première analyse alors économétrique, c'est comme ça que on peut dire, voilà. Je pense qu'il ne faut pas s'en tenir à ce point de vue-là, mais qui est un point de vue intéressant. Alors, je vais expliquer pourquoi moi je ne me tiendrai pas à ce seul point de vue. Je vais donner aujourd'hui la direction dans laquelle nous travaillons au sein de l'organisation politique auquel j'appartiens, et en lien avec un certain nombre de communes et de maires de grandes villes. Et samedi, on était avec le président de la communauté urbaine de Bordeaux, avec le maire de Toulouse, avec le maire de Paris, avec Strasbourg, enfin bon, un certain nombre de villes étaient représentées. Et nous disons que oui, non seulement il faut continuer dans la voie, dans le chemin de la loi SRU, dans ce chemin d'imposer un quota de production de logements accessibles à nos concitoyens. Je préfère le terme de logement accessible d'ailleurs au terme de logement social. Et même qu'il faut amplifier cet effort-là. Et vraisemblablement, on travaille à dire 20% de logement social dans toutes les communes, ça ne suffit pas. Et vraisemblablement, il faut aller vers une obligation de 25% de logement social dans toutes les communes. Et y compris, alors on ne va pas rouvrir le débat, ici aujourd'hui on n'a pas le temps, mais de vrai logement social, c'est-à-dire pour les initiés de PLAI et de plus. On met à part le logement PLS, le logement intermédiaire. On met à part aussi l'accession sociale à la propriété. Elle ne doit pas être dans les 25%. Il doit y avoir un effort sur l'accession sociale à la propriété, mais elle ne doit pas être prise dans l'effort des collectivités pour du logement locatif social accessible au plus grand nombre. Donc ça, c'est le principe sur lequel nous voulons avancer. L'autre principe, qui va aussi dans le sens des quotas, c'est de dire, poursuivre et sur l'ensemble du territoire, il va falloir instaurer, c'est vrai déjà dans l'agglomération lilloise et à Lille même, et je crois qu'on se dirige, mais ça Olivier Brachet en parlera bien mieux que moi, dans l'agglomération lyonnaise aussi, dans ce principe, on propose une règle des 3/3 bâtis. 1/3 de logement social, locatif social, donc PLAI plus, excusez-moi pour les sigles, donc 1/3 de logement locatif social. 1/3 de logements en accession sociale à la propriété ou à loyer maîtrisé, donc ça peut être du privé mais conventionné, et puis 1/3 de logements libres. Voilà. Et c'est à cette condition, et ça pour toutes les nouveaux programmes et toutes les opérations à venir. Et c'est seulement à cette condition-là, des 3/3 bâtis, qu'on arrivera à instaurer véritablement une mixité sociale au cœur de la ville et faire en sorte que ce ne soit plus la mixité sociale, une tarte à la crème, ni un vœu pieux qu'on se donne régulièrement les uns et les autres. Oui, logique de quota, pourquoi ? Parce que le marché, et on l'a bien vu, à lui seul, ne fait pas une politique du logement. Ça peut faire une politique intéressante d'un point de vue fiscal pour certaines parties de nos concitoyens, mais ça ne fait pas une politique du logement, sinon ça se saurait. Et on n'aurait pas tous les exclus du logement aujourd'hui aux portes de nos villes ou dans nos villes. Donc oui, nous réaffirmons la nécessité non seulement d'orienter et de réglementer. Alors, qu'on ne soit pas allé assez loin sur la loi SRU ou qu'elle n'ait pas porté la totalité de ses fruits, sûrement. Mais je n'aurai pas la même lecture que vous, ce n'est pas forcément parce que le principe des quotas n'est pas bon. C'est peut-être parce qu'on ne s'est pas donné les moyens d'appliquer la loi. Ça ne sert à rien de faire des lois, et on est très fort dans notre pays pour faire des lois, si, d'une part, on ne les évalue pas, et si, donc, je suis très ouverte à ce travail d'évaluation, mais si on ne se donne pas les moyens de l'appliquer, sinon on se fait plaisir. Voilà. Donc, peut-être que les pénalités ont été insuffisantes. Peut-être qu'il faut aller plus loin dans les pénalités, parce que dans les communes riches, finalement, je schématise hein, aujourd'hui, peut-être qu'un maire va préférer payer une pénalité, finalement il a les moyens, plutôt que d'effrayer ses concitoyens électeurs en créant du logement social. Parce que le maire, je suis bien placée pour le savoir, je suis maire d'un arrondissement, il a une échéance courte. L'habitat, la ville, ça se construit à long terme. Et le maire, il pense d'abord que dans 6 ans, il faut qu'il soit réélu. Voilà. Et s'il va contre son électorat en créant du logement social, eh ben, il prend des risques. Voilà. Donc peut-être que pour l'inciter à bien peser le pour et le contre, eh ben, il faut encore augmenter la pénalité, quitte à ce que la pénalité de la ville eh bien, apparaisse dans les fiches d'impôts locaux adressé aux habitants, bah tiens, la ville, elle a une pénalité d'autant, donc on paye parce que finalement, la collectivité, elle n'a pas fait de logement social, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, surtout, la loi prévoit que normalement, quand les constats de carence sont avérés, quand une commune ne s'engage pas dans la direction des 20%, on dit pas qu'on, ou des 25% à terme, on ne dit pas qu'on peut y arriver tout de suite, mais en tout cas, prend des mesures pour se diriger vers cet objectif, quand le constat de carence est avéré, eh bien, aujourd'hui, le préfet peut se substituer. Le préfet peut désigner un terrain, le préempter, désigner un bailleur social pour construire. Voilà. Donc, nous demandons d'aller dans cette direction-là. On parle beaucoup aujourd'hui de respect de la loi, de sécurité. Ben, voilà. Respectons la loi. La loi a été votée, elle est là pour être respectée. Donc, peut-être, si la loi n'a pas porté des résultats suffisamment probants, c'est peut-être parce qu'on n'a pas été jusqu'au bout de ce qu'avait prévu le législateur en la matière. Donc, je rejoins ce que disait Monsieur Renard tout à l'heure, c'est peut-être pas la peine de continuer cette inflation législative. Alors, peut-être, certainement, faudra-t-il revoir quelques principes de la loi SRU, peut-être amplifier certains principes qui sont inscrits dedans, mais surtout, se donner les moyens de l'application. Et puis, je terminerai mon propos sur la politique foncière qu'a abordé Vincent Renard tout à l'heure. Dans un de ses écrits, dans un de vos écrits, vous avez eu un terme, en tout cas un adjectif qui m'avait beaucoup plu pour parler de la politique foncière française. Vous aviez dit c'est une politique finalement italo-soviétique. Alors ça m'avait fait sourire, vous l'aviez expliqué. Soviétique parce que finalement on se trouve face à un empilement de décrets, de règlements qui finalement quand on veut sortir quelque chose, eh ben, on se trouve face à une réglementation très contraignante, un petit peu de bureaucratie et puis ça prend du temps à sortir des nouveaux programmes. Et puis finalement c'est tellement compliqué, c'est tellement impraticable cette somme d'outils qu'on finit toujours par négocier un peu à l'italienne et puis finit les règlements, finit les beaux principes et on s'en sort un petit peu comme ça. Donc là, pour le coup, il nous semble important d'avoir une nouvelle loi, une loi d'orientation foncière pour réinscrire un petit peu une nouvelle donne foncière dans notre pays. En 3 mots, et j'en termine vraiment par là, ça serait de dire premièrement, il faut réfléchir au foncier sur des bassins de vie, sur des territoires qui correspondent à des bassins de vie. Alors ça peut être les agglomérations, ça peut être des départements dans des zones plus rurales. En tout cas, ça doit se faire en accord entre les différentes collectivités et avec les régions, mais en gros, en principe, on propose de réfléchir à l'échelle de bassin de vie. Ensuite, il faut articuler les outils et pourquoi pas rassembler les PLU, les PLH, les PDU, enfin bon, bref, on est entouré de sigles et de documents, dans un document central, dans un document qui affirme une voie, une volonté politique et de là décline des outils, pourquoi pas les SCOT, mais en tout cas, un document général d'orientation qui permet d'articuler les outils et de les mettre vraiment au service d'une volonté politique affichée dans la loi, plutôt que de compliquer l'application de cette loi. Et puis, dire que le sol de la nation, eh bien finalement, il doit répondre avant tout à un principe d'intérêt général. Je sais que certains économistes, dont Vincent Renard, travaillent dans ce sens. Thierry Repentin, qui est le président de l'Union sociale de l'habitat et par ailleurs sénateur, a fait aussi du travail dans ce sens. Dire que oui, le sol, c'est un bien particulier, c'est un bien qu'on ne peut pas non plus gaspiller. et qui doit répondre à ce principe d'intérêt général, et qu'à ce titre, de nouvelles règles sont nécessaires. Mais je ne vais pas être plus longue aujourd'hui, ça nous amènerait plus loin que notre débat. Par contre, voilà, je suis prête à répondre à vos questions. Voilà, en tout cas, à mon sens, toutes les conditions, peut-être exogènes à la loi ou au quota, qui feraient qu'elles donneraient certainement de meilleurs résultats que ce que vous avez pu nous présenter aujourd'hui.
D'accord. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Patrice Tillet.
Oui, merci. Je vais essayer d'aller rapidement pour laisser du temps aux échanges. Juste un mot en introduction pour dire tout l'intérêt qu'il y a à placer dans le cadre des journées de l'économie et des GECO cette question-là, qui touche la question de l'économie sociale et solidaire. Et c'était important que Alia d'Habitat, qui est une filiale du groupe Amalia, collecteur du 1% logement et qui est partenaire financier des GECO, je tenais à le dire, soit présent pour débattre d'un sujet comme celui-ci. Je voulais également rebondir sur ce qu'a dit Vincent Renard tout à l'heure, parce que je partage aussi la nécessité que les économistes se mettent au travail sur la question du logement et du logement social. Nous vivons sur un système de financement du logement social qui date de 1977, qui n'a pas été refondé depuis. Et je crois que depuis un certain nombre d'années, nous bricolons. Alors ça participe à l'empilage de lois et de systèmes complexes avec les négociations qu'évoquait également Madame le maire. Donc j'appelle de mes voeux effectivement qu'un travail puisse se faire entre l'Union HLM et Thierry Repentin, le président de l'Union nationale des HLM, souhaite également, je crois, travailler dans ce sens-là, avec des économistes spécialisés sur cette question pour essayer d'imaginer, d'inventer un nouveau système de financement du logement social à la française qui préserve les intérêts de cette spécificité européenne, mais en même temps qu'on puisse avoir un système de financement qui corresponde mieux aux enjeux du moment. Donc ça me semblait important de redire ça, toute la place de l'ingénierie économique sur ce plan-là. Alors ensuite, si on revient à la question, les quotas sont-ils utiles? Alors utiles, pourquoi? Il m'a semblé qu'il y avait quand même deux questions qui pouvaient être partagées. C'était celle de l'utilité en termes d'offre globale, c'est-à-dire est-ce que ça va permettre, c'est ce que le travail que vous avez fait, hein, d'augmenter globalement l'offre de logement social dans le pays? Vous avez fait des incursions régionales. En même temps, ça pose aussi la question de comment ce dispositif peut venir répondre à la question de la ségrégation territoriale et de dire on va prendre l'exemple du Grand Lyon, où on a un grand écart entre des communes très dotées et des communes moins dotées. Donc je pense qu'il y a les deux aspects et il faut, je pense, continuer à évaluer l'efficacité du dispositif sous ces deux angles. Hein. Augmentation de l'offre globale, puisqu'effectivement nous sommes dans une crise de l'offre de logement abordable, ça je vous rejoins Madame le maire là-dessus, c'est la question de l'offre du logement abordable, c'est bien là que se pose le problème, et cette question de rééquilibrage des territoires. Alors Vincent Renard, tout à l'heure vous disiez que peut-être que sur Lyon on avait de la chance de ne pas être trop en pression. Il faut savoir que le Rhône c'est 146 000 logements sociaux, ce qui représente quasiment 20% des résidences principales au niveau du département. C'est plus de 60 000 demandeurs, donc demandes actives en ce moment, pour à peu près 12 à 13 000 attributions par an, hein, dans la rotation et dans l'offre nouvelle. Donc ça veut dire 3 à 4 ans d'attente pour avoir un logement social, d'où l'intérêt des dispositifs type DALO pour pouvoir rapidement répondre à l'offre la plus urgente. Mais c'était important de redire la situation dans laquelle se situe le Rhône et plus prioritairement le Grand Lyon. La question du quota, on en parlait tout à l'heure avec Olivier Brachet et Vincent Renard, et vous l'avez redit, je crois, en disant que le terme de quota, ça nous renvoie à des choses parfois peut-être un peu difficiles. Madame le maire nous dit que non, il ne faut pas avoir peur d'utiliser les mots. En tout cas, ça revient, la question que vous posez revient à se poser peut-être de manière plus générale. Alors, j'ai fait des recherches pendant le mois qui vient de se passer pour préparer cette intervention, en me disant que je vais certainement trouver des analyses sur la question générale de la pertinence de la politique de quotas comme outil spécifique des politiques publiques. pas uniquement dans la question du logement social, mais dans la question de la parité, dans la question de, d'autres types de discrimination ou de ségrégation. Mais j'ai trouvé assez peu de recherches là-dessus, donc si dans la salle il y a des chercheurs, je pense que c'est un sujet pertinent que de se dire comment le quota peut être à lui seul un système pertinent pour porter des politiques publiques, parce que ça permettrait aussi de répondre à cette question que vous posez dans ce cas-là, et de dire est-ce qu'il faut continuer, évaluer et continuer dans le sens de la loi SRU. Donc ça, c'était un élément qui semblait important. Je voulais également, j'ai failli dire, mais je le dis quand même, que je suis un peu en liberté surveillée ici, puisque je voudrais les en remercier dans la salle, à la tribune, mais dans la salle, nous avons beaucoup d'élus et de maires de communes. Donc je voudrais les remercier de leur présence, parce que ça veut dire qu'ils ont un intérêt à cette question. Donc, mesdames, messieurs, soyez remerciés d'être présents. Eh bien, on peut les applaudir, si vous le souhaitez. Ils le méritent, parce que finalement, réaliser le logement social, ça dépend aussi d'une volonté ou en tout cas d'un engagement politique. Puis, je vais me faire plaisir en disant que ceux qui construisent le logement social, c'est les bailleurs sociaux, donc il faut aussi pour eux. Donc, comme je n'ai pas énormément de collègues dans la salle, je vais m'applaudir. Mais il faut qu'on soit tous ensemble pour réaliser cet exercice. Alors, Olivier Brachet, il reviendra, parce que dans l'agglomération lyonnaise, il y a eu une production qui a été... en croissance importante, donc je pense qu'Olivier vous donnerait les chiffres, je ne vais pas revenir là-dessus. Alors, j'avais signalé à M. Tranois effectivement que je participais à certaines commissions préfectorales, d'ailleurs certaines, Olivier, enfin vous êtes présente à toutes d'ailleurs je crois, au titre du Grand Lyon, ces commissions qui analysent la situation. Alors, je vais vous dire le texte de la loi ENL, hein, c'est la commission chargée d'examiner les difficultés rencontrées par les communes et définir les solutions permettant d'atteindre les objectifs de l'article 55, commission qui peut décider de doubler la majoration prévue par arrêté préfectoral constatant la carence de ces communes. Donc, c'est une... alors, bien entendu, je ne vais pas dévoiler ici les débats dans ces commissions, puisque ça relève de la confidentialité, mais ce sont des commissions sous l'égide du préfet, auxquelles participe le maire de la commune, bien entendu, et ses élus, également le Grand Lyon, le président du Grand Lyon, son représentant, deux bailleurs sociaux et deux représentants d'associations qui interviennent dans le champ du logement social. Donc c'est un élément important de l'application de la loi SRU et de l'analyse réalisée au plus près des territoires, sous le contrôle de l'autorité de l'État, des efforts qui sont réalisés. Simplement pour dire que c'est un exercice difficile pour nous, c'est ça que tout à l'heure je disais, je suis en liberté surveillée ou sous contrôle, parce que nous réalisons du logement social quand il y a un maire qui appose son accord sur un permis de construire. Donc pour nous c'est quand même très, très important. Et dire ici que notre posture des bailleurs sociaux dans le cadre de ces commissions a toujours été de ne pas être sur le jugement, mais être dans l'accompagnement, la pédagogie, et essayer de trouver avec les élus des solutions par rapport à des difficultés à réaliser du logement social. Je vais y revenir tout à l'heure, parce que de dire que fixer un quota, ça va régler le problème, effectivement, vous disiez qu'il y a une approche naïve, là on est dans l'approche naïve. En même temps, je dirais aussi que ça a eu des effets positifs, et en quoi ça a eu des effets positifs. Alors, dans le premier temps, les limites du système de quotas appliqués au logement social, hein, et peut-être que ce sont des éléments qui viendront expliquer le constat que vous portez, et Mme Perrin-Gilbert l'a tout à fait signalé, et je crois que c'est un des grands chantiers que l'Union HLM doit mener avec les collectivités, c'est la question du foncier disponible. Madame le maire, vous avez la chance d'être le maire d'un arrondissement qui contient les Pentes de la Croix-Rousse. Les Pentes de la Croix-Rousse, c'est le quartier le plus dense d'Europe. Hein, c'est ce qui se situe là derrière. Donc nous, bailleurs sociaux, quand on se dit allez, on va aller faire, Madame le maire nous incite, on va faire du logement social sur les pentes de la Croix-Rousse, je vous assure, trouver un bout de terrain pour faire quelque chose, c'est pas facile. Néanmoins, nous avons trouvé des dispositifs, nous rachetons des immeubles avec des baux amphithéotiques qui nous sont facilités et cofinancés avec le Grand Lyon. On trouve des dispositifs, en même temps il faut de l'inventivité, de la prise de risque de près de la collectivité locale, on y arrive, mais c'est quand même très très compliqué, puisque c'est plus facile d'acheter un terrain pour bâtir que d'acheter un immeuble qui appartiendrait en totalité à quelqu'un qui souhaite s'en dessaisir. Mais ce sont des réalités. J'allais mettre dans... Il faut que je réduise. Alors, je vais mettre aussi dans ce cas-là, parce que je sais que certains d'entre vous dans la salle sont concernés, il y a la question aussi de la topographie des communes. Vous avez des communes sur lesquelles la topographie ne permet pas de bâtir là où on voit des beaux espaces verts. Ben oui, mais il faut être clair sur le fait qu'il y a des risques géologiques notamment qui font, et des risques aussi technologiques avec des zones de protection qui sont de plus en plus larges sur lesquelles on ne peut pas réaliser de construction, ni promoteur privé, ni même logement social. La cherté du foncier, eh ben effectivement, construire à Vouhenvelin, pour nous bailleurs sociaux, c'est plus facile que construire, mais je ne vais pas donner le nom, dans d'autres communes où le foncier est 2, 3, 4 fois plus cher, puisqu'effectivement, nous allons réaliser dans ces communes-là des logements avec des loyers au même niveau. Donc, qui va faire la péréquation? On peut appeler les communes à la rescousse. D'ailleurs, les communes peuvent affecter une partie de leur pénalité dans le cadre de la carence à financer ces opérations-là, mais on voit bien que ça ne nous fera pas la maille pour arriver à réaliser l'opération. Les règles d'urbanisme aussi concourent parfois à lutter contre la densité urbaine. J'ai un exemple dans le 4e arrondissement de Lyon. On est en zone URM, donc on pouvait créer un bâti assez dense, important, pour offrir beaucoup de logements, mais comme il faut créer des failles pour avoir des vues, ce qui peut être quelque chose de bien, bon, eh ben, on fait 30% de logement social en moins dans cet immeuble, puisqu'on a des règles d'urbanisme contraignantes. Rapidement, décision des architectes des bâtiments de France, où on se pose la question de qu'est-ce qui doit l'emporter, la préservation d'un pied d'aqueduc romain que personne ne voit, qui est dans une propriété privée, ou la réalisation de 20 logements sociaux. Bon, moi, je réponds assez facilement à ça. L'opposition des riverains, on a eu l'exemple concret où des riverains se sont opposés dans une commune en carence, sur un terrain que nous allions construire des logements. Ce sont nos propres locataires qui étaient en face, qui étaient les seuls locataires HLM de la commune, qui se sont opposé au projet. Donc ça veut dire qu'avec le maire, il a fallu les rencontrer en disant que si un jour ils ont pu intégrer le logement social dans cette commune, c'est qu'autour, les gens avaient laissé faire et qu'à leur tour, il fallait qu'ils laissent faire cet immeuble. Ça a été beaucoup de réunions, beaucoup de travail. On a sauvé 16 logements sociaux dans une commune qui en a très très peu. Donc je pense qu'il y a aussi l'opiniâtreté des élus locaux concernés et des bailleurs sociaux à tenir ces projets-là. Vous l'avez dit, Madame le maire, peut-être qu'il y a un manque de volonté politique. Moi, je ne l'ai pas forcément vu dans mes interlocuteurs du Grand Lyon. Un manque de volonté politique et puis aussi un cynisme politique qui serait de dire « j'en fais pas, même si on paye la taxe, ça suffit à faire un programme politique ». Mais ça, honnêtement, je ne l'ai pas entendu auprès des partenaires. Donc il y a bien d'autres effets qui s'opposent à cette logique de quota, mais je vais venir au côté positif, c'est qu'à mon sens, le fait d'avoir affiché, et vous l'avez dit certains d'entre vous, d'avoir affiché 20% de logements sociaux dans la loi, ça a permis que l'opinion publique a validé ce chiffre comme étant un seuil qui fait consensus pour tout le monde. Je suis allé sur des blogs d'élus, et je trouve que c'est une question qui revient très souvent dans leurs blogs, donc dans leur communication auprès de leurs administrés, où ils réagissent par rapport à ça, et ils s'expliquent sur pourquoi on est en dessous, est-ce qu'on va les dépasser. Alors, ça fait consensus. La Fondation Abbé Pierre publie régulièrement le palmarès du déshonneur, avec les communes de la... Enfin, pas les communes de la honte, ils appellent ça les bons élèves, les mauvais élèves, mais je crois qu'il y a un opérateur qui appelait ça comme ça. Donc on voit que l'opinion publique devient critique sur cette question-là et analyse cette question et peut-être peut demander compte à ces édiles sur « mais qu'est-ce que vous faites dans ce cadre-là » Donc ça, ça me semble important. Et puis redire aussi que face à cette problématique-là, ben, y a des collectivités qui prennent des initiatives, et on peut citer dans les règles d'urbanisme du Grand Lyon et certaines communes du Grand Lyon qui disposent qu'une partie des programmes de promoteurs devront contenir 20, 25, 30, 35% de logements sociaux. Et là, effectivement, c'est comment on fait d'un quota d'une loi une règle d'urbanisme locale qui finalement fonctionne plutôt bien et permettra de rééquilibrer. Donc voilà, je vais en terminer là. Donc côté positif, côté négatif, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure sur est-ce que ça permet de lutter contre la ségrégation territoriale ou est-ce que ça intervient sur l'offre globale. Il faut quand même savoir que le seuil, et c'est ça la question aussi de se dire est-ce qu'il faut rester à 20, est-ce qu'il faut monter à 25, est-ce qu'il faut monter à 30. J'avoue que je ne vais pas plaider pour notre activité, mais j'avoue que je ne pense pas qu'il faille forcément aller dans ce sens-là. En revanche, ce qui est clair, et ça interpelle, hein, Madame Perrin-Gilbert, c'est qu'effectivement, au moment où des communes font des efforts pour se hisser aux 20%, parce que véritablement des efforts sont réalisés en inventivité, en mise de fonds, d'autres se maintiennent à la ligne de flottaison, hein, ils font en sorte de rester à 20%, exactement. Et ça demande beaucoup de travail, mais ils y restent. Et d'autres qui étaient à 60% se disent, moi je vais passer à 40 et ensuite à 35. Donc dans l'effet global sur une agglomération, qu'est-ce que ça va apporter? Voilà, ça c'est une autre question à laquelle on ne répond pas avec l'article 55 de la loi SRU. Voilà, la contribution d'un bailleur social à ce dispositif. Merci de votre attention.
Merci. Monsieur Olivier Brachet, vous êtes le dernier intervenant. Donc...
Il y a plusieurs choses qui ont été dites sur lesquelles il faudrait revenir. Je voudrais en pointer deux quand même sur l'exposé que vous avez fait, sur la carte. Je dirais que votre carte avec les points noirs et les points verts et les points rouges, à mon sens, illustre le discours de Benoît Apparu sur les zones tendues et les zones non tendues. C'est-à-dire qu'il illustre le fait qu'on construit des logements sociaux là où il y en a moins besoin. Et on le voit bien sur cette carte, et on n'en construit pas assez sur les endroits tendus. Alors, je me demande si ce n'est pas une faille quand même dans votre raisonnement d'avoir un système de contrôle qui, est basé sur cette partition, en gros, zone tendue, qui est par ailleurs très critiquée. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est quand même, vous jugez sur deux périodes. Or, si je prends les résultats, par exemple, sur le Grand Lyon, on a manifestement, sur trois périodes, puisqu'on peut maintenant ajouter les chiffres de la troisième, une accélération de caractère géométrique, sur lequel on peut s'interroger, puisque vous parliez essentiellement de vitesse acquise ou de vitesse développée. Avec la vitesse, il y a des phénomènes d'accélération, et dans le domaine du logement, c'est long de démarrer, c'est long de prendre de la vitesse, mais on a un temps d'accélération qui arrive, et vous le saviez, on partait de très bas à la fin des années 90. Si je prends en termes de production globale, sur le Grand Lyon, on part de 5000 logements produits par an pour arriver à 10 000 aujourd'hui, de 1000 logements sociaux par an pour être à pratiquement 5000. Aujourd'hui, on a lancé cette machine qui nous fait passer à 10 000 logements par an, dont pratiquement 1 sur 2 est un logement social, et bien entendu, dont on ne verra les effets que dans 4 ans. C'est-à-dire qu'il faut 4 ans et plus, en réalité, pour sortir un logement social et le compter dans les logements livrés. Donc, vous voyez, l'effort qui démarre en 2001, on en verra les effets sur le traitement de la demande. Aujourd'hui, on en verra les pleins effets à hauteur de 4 ou 5 000 logements sociaux en 2015 et guère avant. Pour qu'on puisse avoir 4 000 attributions de logements sociaux nouveaux par an, il faudra encore attendre un petit peu parce que c'est très long de s'y mettre. Voilà. Donc, c'est des remarques que je voulais faire avant. Mais, au fond, sur l'article 55, je dirais que pour nous, les choses rentrent dans une politique. Et bien entendu que c'est un des socles sur lequel on se pose. Moi, j'ai l'habitude de dire que nous avons des objectifs quantitatifs qui sont liés, au moyen et long terme. C'est l'évolution de la population à Lyon et la situation de crise dont on hérite au départ. Entre le stock en crise et les 150-200 000 habitants qu'il va falloir accueillir, il faut produire du logement à hauteur de 7 à 10 000 par an sur 20 ans. Donc il faut se tenir absolument et le faire dans un cadre compris de densification et pas d'étalement urbain. Donc on a des outils pour essayer d'y arriver, je ne développe pas. On veut le faire évidemment dans un projet de mixité sociale, c'est-à-dire où les solidarités dont parlait Nathalie tout à l'heure se fassent, et pour cela il faut décliner des priorités, en particulier des priorités territoriales. Il faut rééquilibrer, je fais vite, entre l'Est et l'Ouest, et créer un consensus là-dessus, et ce consensus existe. D'ailleurs, je salue effectivement les maires de deux communes de l'Ouest qui rament pour monter leur taux de logement social autant qu'il se peut, mais ils vous diront sans doute tout à l'heure les difficultés auxquelles ils se heurtent, qui, en tous les cas, ne mettent pas en cause leur bonne volonté dans ce domaine. Je peux en témoigner. Alors, mixité sociale d'un côté, ambition quantitative de l'autre, maîtrisée du point de vue du développement de l'agglomération, mais assis aussi sur des outils légaux. Et ces outils légaux, ils sont pour moi essentiellement, même s'ils n'ont pas donné leur pleine mesure, le DALO, le traitement de la demande qui se donne une obligation de résultat. Et je pense que sur l'agglomération, on a quand même des résultats intéressants auprès des familles les plus démunies, même si c'est loin d'être parfait. Mais on n'est pas dans la situation de crise parisienne et de non-résultats ou de difficultés de résultats. Par conséquent, le DALO nous aide effectivement à traiter la demande des très pauvres et des très démunis, même si ce n'est pas totalement. Mais en tous les cas, nous la traitons mieux aujourd'hui avec le DALO qu'auparavant. Et l'article 55 qui permet de monter la production de logement social à peu près partout. Alors, je dirais, c'est très important par rapport au jugement sur l'article 55. Le renouvellement urbain, on nous dit globalement en France que ça ne marche pas. Peut-être que ça ne marche pas en Ile-de-France, mais ça marche à Lyon. Le DALO, on nous dit que ça ne marche pas, mais ça marche. Hein ? Et l'article 55, on nous dit que ça ne marche pas, ça marche. Par conséquent, c'est là où je veux réemboîter les outils, et sans doute faut-il encore les perfectionner, pour arriver à se faire une opinion. Pour revenir rapidement sur l'article 55, il y a au moins deux points sur lesquels on peut considérer que les résultats sont bons. On avait sur les périodes triennales, les trois périodes, hein, des objectifs à 2000, 1700 et 1663. Vous voyez, c'est des objectifs qui baissaient sur les périodes triennales telles qu'elles étaient calculées avec l'autorité préfectorale. Eh bien, en logement lancé, financé, nous sommes à 2100 sur la période 2002-2004, c'est-à-dire au-dessus de l'objectif. En 2005-2007, nous sommes à 4156 pour 1756 d'objectifs, donc c'est trois fois plus que l'objectif. Et en 2008-2010, nous sommes à 4655 pour 1665. Donc on voit bien l'effet d'entraînement, l'effet géométrique qui se fait et qui, certes, s'appuie sur un ressort qui est plus global. Puisqu'en réalité, la base sur laquelle on raisonne, la base de production de logements sociaux, c'est une base de 7 à 8 000 sur l'ensemble de l'agglomération, sur les trois années. Par conséquent, on voit très bien qu'il y a une sorte de locomotive qui est... Et le gros problème va être, à mon sens, hein, c'est pas tellement de passer de 20 à 25, parce que pour les communes qui sont à 6, elles vont pas arriver à 25 avant de nombreuses années. Mais ce qui est le plus important, c'est de maintenir l'effort partagé, l'effort tous ensemble, un consensus. Alors, je crois que dans l'agglomération, on a, je crois, deux communes qui ont été pénalisées, c'était très marginal sur l'ensemble des communes, et les explications qui ont été données sont des explications qui se heurtent à des difficultés qu'a mentionné Patrice Thillet, qui sont souvent liées aux terrains qui manquent, des terrains qui ne sont pas constructibles. Évidemment, quand le Grand Lyon classe en zone verte une commune, on ne construit pas dans la zone verte, ou quasiment, il y a des référés contre les permis de construire dans des communes où les voisinages ne veulent pas de logements sociaux, mais ce n'est pas les maires, en l'occurrence c'est des voisinages, et il y a aussi des bailleurs sociaux qui retardent leur programme et qui mettent en retard un certain nombre de programmes parce que tous les montages financiers ne sont pas faits. Par conséquent, il y a des situations qui sont assez compliquées. Je voudrais simplement ne pas trop développer ces contraintes, mais elles existent. En même temps, on a produit des outils qui favorisent grandement l'effet d'entraînement, j'allais dire privé-public. Et ça s'est expérimenté sur le premier mandat en demandant aux promoteurs de mettre contractuellement dans la discussion cas par cas 20% de logements sociaux dans leur programme. Et ça se traduit maintenant par les secteurs de mixité sociale qui ont été introduits dans le PLU depuis le 1er janvier. Donc on ne peut pas mesurer encore exactement les résultats, mais on est sur la vitesse acquise. Donc là, on a un très bon exemple pour dire on a testé contractuellement quelque chose, on le met dans la loi. Mais à ce moment-là, il ne faudra pas dire que la loi ne sert à rien parce qu'il y avait une vitesse acquise juste avant. Non, on aura un effet de systématisation dont on mesurera les effets par la suite. Alors, ce règlement de secteur de mixité sociale a été pris par la totalité des communes sous les obligations SRU. Je crois que c'est 21 communes et une commune qui n'est pas obligée. Eh bien, on voit que dans le système d'agglomération, on a un poids relatif du logement social qui diminue et un poids du privé, de l'accession et du locatif privé qui augmente dans les secteurs de renouvellement urbain. Et on voit un taux de logement social qui augmente dans les communes où il était très bas. Donc on a un rééquilibrage territorial qui est sanctionné par des objectifs de rééquilibrage territorial. Je ne viens pas sur les chiffres pour ne pas être trop long, mais qui sont respectés. Voilà. Alors, pour finir, je voudrais faire simplement la remarque suivante pour revenir à ce que je voulais dire au départ, c'est qu'au fond, quel est l'objectif? Et à mon sens, la difficulté, c'est que, Nathalie le mentionnait tout à l'heure, les deux tiers des gens sous plafond, ils sont dans le parc privé. Le parc privé, c'est 4 logements sur 5 de l'aglo. Par conséquent, la lutte pour la mixité sociale, dont l'article 55 n'est qu'un outil. va se fonder sur cet article 55, mais en réalité, le grand problème, le gros problème, c'est le parc privé et son évolution. C'est là que nous devons... Or, nos outils dans ce domaine sont défaillants, nos outils nationaux, nos outils législatifs sont totalement défaillants. Nous essayons, dans le parc privé ancien, d'en récupérer par des systèmes de baux amphithéotiques, c'est-à-dire qu'on les achète au Grand Lyon et on les revend à moitié prix aux bailleurs sociaux. Mais vous savez combien on dépense là-dedans ? Près de 28 millions d'euros pour ce qui va se traduire par des acquisitions, mais qui vont donner 200, 250 logements sociaux. C'est-à-dire qu'en réalité, on est proche de l'irrationalité économique, puisqu'on se trouve à mettre pratiquement dans les acquisitions améliorations plus que les moyens qu'on met dans la délégation des aides à la pierre sur la totalité des autres 4000 logements sociaux. Par conséquent, mais d'un autre côté, ça veut dire quoi? C'est un signal politique. Ça veut dire que nous perdons de la mixité sociale, non pas parce qu'on ne fait pas le SRU, le 20%, etc., mais parce que le marché privé, dans lequel on n'a aucun outil fiscal dans les cœurs de ville suffisant pour, j'allais dire, maintenir la fonction sociale du parc privé, nous échappe et nous luttons le dos au mur. Et finalement, nous essayons de réintroduire de la mixité avec du logement social, mais en réalité, il faudrait surtout arrêter la dégradation de la mixité dans le parc privé tel que naturellement, au fil des ans, ça fout le camp, et qui font qu'aujourd'hui, la ville de Lyon est confrontée à la ville elle-même qui fait 1000 logements sociaux financés par an, qui est considérable, qui, en faisant 1000 par an, monte son taux de SRU de 18,3 à 18,7, je crois, à peu près. Donc, vous voyez, en faire 1000, c'est beaucoup. Et le taux varie peu parce qu'il y a par ailleurs une forte production privée. Et cependant, la mixité sociale qu'on tente de conserver par cet effet-là se trouve évidemment par ailleurs subir un contre-courant dans la logique du marché de l'immobilier privé qui n'empêche pas de... Alors, il faudrait pouvoir, j'allais dire, lutter contre. Hein. Pour ceci... Je pense qu'il y a quand même des propositions qui sont à faire, et je ne suis pas totalement Nathalie là-dessus, parce que dans les secteurs où c'est difficile, il faut qu'on encourage le consensus et la dynamique. Et pour ça, d'ailleurs, je trouve qu'il y avait une proposition de la Fondation Abbé Pierre qui n'est pas reprise au motif, je crois, de ne pas soulever le couvercle là, d'une discussion nouvelle sur les 20%, mais qui était de décompter, au fond, d'encourager le système par une action sur plus de fluidité. Or, en mettant les taux sur PLAI et plus, il n'y aura pas les financements qui suivront. Aujourd'hui, vu les financements publics, si on augmente les plus et les PLAI aujourd'hui, eh bien les budgets ne suivent pas. Je rappelle que les PLS, par ailleurs, ne coûtent rien en subvention publique. Et ils ne sont pas si peu sociaux que ça. La Croix-Rousse, moi j'ai inauguré des programmes de 90 mètres carrés en PLS à 580 euros le loyer et 100 euros de loyer résiduel. On ne peut pas dire qu'à la Croix-Rousse, ce n'est pas du logement social, y compris en PLS sur le plateau. Par conséquent, il faut être vigilant à ce qu'on joue sur tous les maillons de la chaîne. Et pour ça, je pense que la proposition de la Fondation Abbé Pierre, qui consistait, je crois, à décompter les logements au motif de 0,5 par exemple sur PLS, peut-être 0,25 sur l'accession sociale, peut-être 1 sur le plus et peut-être 1,5 sur le PLAI. À propos, ce décompte, je rappelle qu'on le fait dans les foyers de travailleurs migrants, où on a 1 pour 3, hein. On le fait à l'envers, mais on a 1 pour 3, donc on sait assouplir, permettrait, j'allais dire, d'introduire dans le marché ce qui, finalement, ce que l'on a appris aussi, de certaines opérations avec le parc privé, entre autres sur Lyon avec le pass foncier, où on a permis l'accession à la propriété, une accession sociale, à des ménages jeunes et à des ménages sous plafond, mais avec des systèmes où le cœur de la machine est un cœur privé. Voilà, donc je voudrais évoquer pour finir un point sur lequel on réfléchit, parce que, économétriquement parlant, il pose problème. Dans un marché, pas parisien, à 4000 euros du mètre carré, pour le neuf privé, et à 2005-2007 pour le privé social ou le social privé. Enfin, parce qu'on ne sait pas très bien ce que c'est que l'accession sociale au bout du compte, mais enfin, à cet endroit-là, il y a de l'accession sociale. On voit bien qu'on a une espèce de double marché qui pose problème, puisque les promoteurs à 4000, ben, ils se tournent vers nous pour racheter leurs produits quand ils ne trouvent pas de clients, et inversement, quand on veut faire du social à 2007, ça coûte relativement cher en subvention, et finalement, on voit bien que les gens... La classe moyenne qui est coincée entre un statut de locataire qu'elle voudrait quitter d'une certaine manière et un statut de propriétaire plein et entier qu'elle voudrait avoir, eh ben, le gap est trop élargi. Dans la situation à Paris, c'est encore pire, c'est inaccessible. Et chez nous, on voit bien que ça le devient quasiment de plus en plus. C'est pourquoi l'idée de travailler sur une autre formule et les formules démembrées, hein, on n'est pas propriétaire, on n'est plus locataire comme avant, mais on n'est pas propriétaire pleinement et entier de sa propriété, mais on passe par le relais d'une sorte d'intermédiaire qui pourrait être la coopérative, qui pourrait être un système dans lequel on est propriétaire de parts sociales. C'est-à-dire qu'on a plus que quand on était locataire, on jette plus son argent par la fenêtre, on se fait un petit patrimoine, mais on ne se fait pas le grand patrimoine qui culbute et qui quadruple. Là, il y a des pistes de recherche où les économistes, d'ailleurs c'est ma formation, je suis complètement d'accord, ne travaillent pas assez sur ces questions-là, de façon à ce qu'on puisse projeter, imaginer un système où, effectivement, tout le foncier n'est pas que de la propriété privée, et n'est pas vocation qu'à des culbutes tous les 10 ans, et où on quitte quand même un statut de locataire qui n'est pas négatif, mais dans lequel, au fil du temps, les gens s'inquiètent beaucoup en raison, j'allais dire, du financement de leur retraite sur la question de l'accession à la propriété. Je rappelle qu'en France, c'est un élément déterminant de la stratégie d'accession à la propriété, c'est de compléter ou de soulager le niveau des retraites. Par conséquent, cet angle d'attaque, c'est quelque chose que l'on peut imaginer et nous le tentons sur l'agglomération lyonnaise, à la fois par le soutien aux projets coopératifs, mais aussi par une étude assez poussée qu'on va développer l'année prochaine sur ce qu'on appelle une fêtière foncière qui permettrait en quelque sorte de voir comment travailler dans cette direction où, n'étant plus un locataire comme les autres, on devient un peu propriétaire, et tout en n'étant pas le plein propriétaire qui fait rêver tout le monde, mais qui est réservé à plus grand monde aujourd'hui.
Bien, merci. On va donner maintenant la parole à la salle.
Je propose que ce soit Vincent,
que tu maîtrises le débat dans, je dirais, les 12 minutes, on va terminer à moins le quart.
Maîtriser n'est pas le mot. Je vous demanderai simplement d'être compact, de dire qui vous êtes et de poser vraiment des questions. S'il vous plaît. Allez-y. Et ensuite, une derrière.
Oui, bonsoir. Patrick Beau, là, bon, ça fait 10 ans que je suis concerné en tant que comité de quartier à toute cette problématique d'habitat. Et alors, là, on voyait quota. Et moi, ce qui m'interpelle constamment, c'est le quota, c'est plutôt la répartition dans ce quota. Comme on dit, les PLS, les PLI, etc. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a des secteurs où il y a non-mixité sociale, où on met quel type de logement, des PLS, et dès qu'on passe une frontière scolaire autrement, c'est là qu'on met les familles lourdes, les familles à difficultés sociales ou éducatives. Donc, depuis 15 ans, je l'observe aussi, je suis un peu écœuré, et là, je voyais encore, il n'y a pas longtemps, sur le 6e, Habitat Humaniste se gargarisait de faire un programme. Bien sûr, c'était des gens qui allaient habiter dans ce programme, habitants propriétaires, avec des gens qui venaient liés à la discrimination positive, donc avec un profil éducatif et de volonté de s'insérer dans un système réussissant, et des femmes seules. Mais où se trouvent les familles lourdes? Eh bien, on ne les voit pas. Par contre, dans d'autres quartiers de rive gauche où je m'occupe, eh bien là, discrètement, on y met les familles lourdes à difficultés sociales, hein, et économiques et éducatives. On remarque ça aussi, même en périphérie. Je vois à Saint-Priest, on fait un immeuble social, mais là, pas de mixité générationnelle, pas de mixité au niveau des styles de gens, et là, on fait essentiellement pour famille. Donc, tout ça, c'est quoi? C'est qu'on continue à créer des UP. Je suis totalement d'accord à ce qui se passe à la Duchère. Alors, bravo, pour une fois. Mais on continue à créer des UP, mais là, en ville, en certains secteurs. Et c'est écœurant. Et d'autre part, pour un autre exemple, j'ai été confronté à un exemple personnel. Une personne de 54 ans qui se trouve en désescalade sociale, pas de travail, migrante de l'intérieur, qui arrive sur Lyon, qui trouve 20 heures d'aide aux personnes, qu'on demande un logement d'urgence, on ne l'obtient pas. Elle peut être aidée par le Pôle emploi pour un déménagement. Et là, elle arrive en limite pour son aide d'un déménagement. Et bien là, on est obligé d'aboutir sur un logement dans le parc privé social. Mais là, le coût, c'est augmenté au moins de presque 100%. Et débrouillez-vous. Bon, alors, mais elle est migrante de l'intérieur, elle n'est pas migrante d'ailleurs, elle n'est pas esquimaux, quoi.
Alors, vous faites souvent allusion à « on ». Alors, « on se demande si c'est les organismes, ou si c'est la communauté urbaine, ou si c'est la ville. Je ne sais pas, qui veut commenter sur ce contexte lyonnais
Je peux répondre rapidement sur le principe de... Déjà, pour dire que la mixité, c'est un grand mot, mais il y a eu plein de colloques sur la mixité sans qu'on ait pu vraiment définir ce que c'était. La mixité, c'est toujours chez les autres, pour les autres, et pas pour soi. On préfère le quant à soi. Bon, ça, première réponse. Après, sur ce dont on a parlé, le logement social, il y a trois catégories, le PLAI, logement d'insertion, le plus, logement HLM ordinaire, et puis les PLS, plutôt le niveau intermédiaire. Olivier Brache avait raison de dire, dans le PLS aujourd'hui, ce n'est pas du logement de riches. 70% des locataires du PLS relèvent des plafonds plus, donc ça veut dire qu'on est sur le même type de public en termes de, en tout cas, ressources. Ensuite, quand nous avons à réaliser des programmes immobiliers, le financement est calé avec les collectivités, le Grand Lyon et avec les maires des communes, et nous essayons au maximum de créer la mixité au sein du même immeuble. Je peux vous dire que pour nous c'est très complexe, c'est-à-dire quand on est dans un immeuble de 10 logements, parce qu'on fait de plus en plus des petites opérations, il faut faire deux PLAI, tant de plus, et on se dit bah, on va faire deux PLS, ça veut dire trois fois plus de dossiers de financement, mais bon, c'est difficile, mais c'est notre job, on le fait. Donc de plus en plus, ce que je peux vous assurer, c'est que dans les programmes immobiliers que nous réalisons, il y a la mixité dans l'immeuble par ces types de financement, ce qui conduit à autre chose après, c'est une politique d'attribution des logements. La commission d'attribution des logements, c'est quelque chose qui est décrit par la loi, donc qui est au sein de l'organisme HLM, dans lequel nous attribuons les logements en fonction de réservation. Une part importante du parc HLM est réservée, une partie pour le préfet, pour des fonctionnaires ou pour des gens en grande difficulté, une partie auprès des collectivités qui ont garanti les emprunts que nous avons pris, c'est bien légitime qu'il y ait un retour et ils ont un droit sur l'attribution, et ensuite le 1% logement pour les salariés des entreprises qui financent à hauteur de centaines de millions la construction de logements sociaux. Donc ça veut dire que les attributions se font dans ce cadre-là avec des gens qui ont des collectivités ou des partenaires qui ont des droits sur l'attribution des logements, et un reste modeste, ce sont les bailleurs eux-mêmes qui décident. Donc l'acte d'attribuer est quelque chose de très très complexe, et nous devons, notamment dans l'agglomération lyonnaise, je l'ai dit tout à l'heure, faire face à 12 000 à 13 000 attributions nouvelles de logements par an pour 65 000 demandes. Donc effectivement, l'exercice est complexe. Donc je ne partage pas votre constat, puisque moi c'est mon métier quotidien, et je peux vous assurer que nous sommes très vigilants à ça, parce que nous n'avons aucun intérêt à faire de la ségrégation telle que vous le dites, et je pense que les communes non plus, et les élus sont très vigilants sur cette question-là, parce que ça va poser des difficultés que nous aurons à gérer les uns et les autres. En même temps, c'est quelque chose de complexe, puisque la paupérisation des publics fait qu'effectivement, nous avons à offrir des logements à des gens qui sont en grande difficulté, et ça, nous devons l'assumer collectivement. Je ne sais pas si les élus veulent réagir à ça.
Merci. Je crois qu'il y a une question. Vous avez beaucoup d'impatience. Enfin, on parle des attributions. Ce sera un immense sujet pour les prochaines GECO, parler de l'attribution, une question clé. Allez-y.
Oui, bonsoir. Très bref. Oui, je vais être très bref. Madame Nathalie Perrin a parlé tout à l'heure de l'intervention de l'État. Je crois qu'effectivement, c'est plus qu'une nécessité. Et il ne faut pas avoir peur de parler du plan. Moi, personnellement, j'ai toujours, philosophiquement parlant, été pour un plan en France, y compris, surtout dans des domaines sociaux. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est effectivement, monsieur du conseil du quartier a parlé, moi je suis au conseil du quartier d'Irlande. Et si vous voulez, il y a un problème, vous l'avez dit vous-même, que les difficultés de faire accepter des logements sociaux. Je pense qu'il y a un problème de relations publiques à faire, et j'allais dire de communication auprès de la population. Un logement social, c'est pas nécessairement quelque chose de mauvais, je dirais même c'est quelque chose de bon. Et je crois qu'il faut quand même bien préciser ce que c'est un logement social en dehors des aspects techniques que vous avez démontrés. Le deuxième, et pourquoi pas, lorsque un projet est en cours de construction de logement, faire participer, j'allais dire, les citoyens au travers, j'allais dire, divers organes qui existent, comme les conseils de quartier, comme les CIL, etc., qui permettraient de donner des idées. Et en même temps, faire que le logement, c'est pas uniquement pour habiter, mais c'est aussi y vivre. Et y vivre au niveau, j'allais dire, du relationnel, c'est-à-dire les aspects culturels, les aspects commerciaux, etc. Et là, je crois que souvent de fois, on a l'impression que les constructions de logements se font en dehors par-dessus de cette nécessité urbanistique d'un environnement. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'à des fois ça coince, parce que s'il n'y a pas des services qui sont mis à la disposition des habitants des nouveaux logements qui sont censés être construits, effectivement, ça peut venir à, j'allais dire, une zone dortoir. Donc il me semble que là, il y a un effort énorme à faire. La troisième, et j'en terminerai, la troisième question, vous dites effectivement que le logement social, mais quand vous avez des organismes qui louent des organismes sociaux, dits sociaux, hein, des bailleurs sociaux, à 50 mètres carrés à 1 000 euros, sachant que 80% des salariés ne dépassent pas 1 200 euros, dites-moi si c'est vraiment un logement social. Là, je crois qu'il faut quand même bien poser cette question, cette thématique qui, à mon avis, est très importante. Et la troisième, et j'en termine, je reçois, moi, dans mon courrier tous les mois, lorsque je reçois ma quittance de logement, des propositions de vente d'appartements à l'intérieur des organismes d'HLM. Moi, personnellement, je suis opposé à ça, puis je n'ai pas l'intention d'acheter. Moi, ça ne me gêne pas d'être locataire. Moi, je ne vois pas en quoi, mais ça, c'est chacun voit. Être propriétaire, si c'est pour crever la faim, pour payer son appartement, ça ne m'intéresse pas non plus. Donc, il y a à la fois un piège à con, à mon avis, de vendre ces appartements à des gens dont on n'est pas la certitude qu'ils ont les moyens de payer cet appartement. Et en plus, ce qu'il faut bien leur dire, c'est que si les propriétaires, ils leur mettent temps responsable de son alentour, c'est-à-dire de l'entretien collectif des bâtiments. Et là, à mon avis, je crains qu'il risque d'avoir de mauvaises surprises. Voilà ce que je voulais dire.
Oui. Par rapport à cette intervention, par rapport aussi à ce que Olivier Brachet a dit tout à l'heure, par rapport à l'État et le rôle de l'État, c'est clair que les collectivités locales seules ne peuvent pas tout. Et Lyon et l'agglomération lyonnaise sont un bon exemple. Olivier Brachet rappelait tout à l'heure l'augmentation du budget consacré à la politique d'habitat et de logement. Les bailleurs sociaux seuls ne peuvent pas tout non plus. Et évidemment, nous trouvons scandaleux la proposition et le projet de ponctionner les bailleurs, alors quels qu'ils soient, les OPAC ou les ESH, les SA d'HLM, de 2% globalement des rentrées locatives. Donc non, il ne faut pas peser davantage sur le budget des HLM. En gros, c'est pas aux locataires en place de participer à l'effort de financement de construction du logement social. C'est pas aux ménages modestes de financer le logement social des autres, encore plus modestes peut-être, et demandeurs de logement. Donc là aussi, les bailleurs sociaux ne pourront pas tout. Donc c'est clair qu'au niveau de l'État, il doit y avoir un retour, ce qu'on appelait, on parlait tout à l'heure de la politique depuis 1977, Raymond Barre, hein, retour vers l'aide à la pierre, en lien avec les efforts faits des collectivités. C'est pas normal qu'aujourd'hui un logement social plus soit financé à hauteur de 1 000 euros par l'État seulement. Donc oui, l'État doit revenir dans son rôle de financeur du logement social. Alors l'État ne pourra pas tout non plus, on connaît bien l'état des finances publiques. Ceci dit, le budget consacré au logement, tout compris avec les incitations fiscales, etc., c'est environ 30 milliards d'euros, si on rassemble tout. Il est clair que dans un budget comme celui-ci, il y aura et il peut y avoir des marges de manœuvre. On voit par exemple qu'un logement cellier, on parlait tout à l'heure du cellier du Derobien, l'aide au logement cellier coûte deux fois plus cher à l'État que l'aide à un logement social. Donc oui, il y a des marges de manœuvre à retrouver et à travailler pour que l'État puisse participer à la construction de logements, y compris PLAI et plus. Je suis aussi d'accord sur ce qui a été dit par rapport à l'implication des locataires. Là, si on est sur le parc locatif social, de même qu'on dit qu'il ne faut pas ponctionner les bailleurs HLM, par contre, et si l'État revient sur un effort de construction, on doit demander des efforts, me semble-t-il, au secteur HLM, notamment en matière d'accompagnement à la mutation. Parce qu'on voit bien alors qu'il y a des ménages qui habitent des logements soit trop grands, soit trop petits, qu'il y a des gens qui veulent partir de leur logement, qui font des demandes de mutation depuis 3 ou 4 ans, et elles sont ce qu'on appelle bloquées. Donc il faut accompagner ces demandes de mutation, et il faut aussi favoriser les initiatives des locataires. Je pense par exemple à tout ce qui pourrait être jardin partagé, occupation de locaux communs, pour que les locataires se sentent vraiment impliqués dans leur habitat, et ne se sentent pas seulement logés sous un toit. voix. Et puis aussi en matière de politique de proximité, les élus locaux que nous sommes, on le porte aussi, c'est la politique des gardiens d'immeubles et du personnel de proximité. Revenir à ce personnel de proximité dans les immeubles, c'est aussi un effort qui doit être porté, à mon sens, par les bailleurs sociaux.
Bien, je crois que...
Monsieur Fayet veut dire un mot.
Simplement, je serai très bref parce que beaucoup de choses ont été dites. Moi, je ne partage pas l'idée que l'article 55 de la OECE ne servait à rien.
Je ne partage pas cette idée du tout parce que ça reste pour nous un levier extrêmement précieux. Précieux parce qu'il a institué un débat qui n'existait pas, parce que depuis longtemps, dans l'agglomération lyonnaise, la question du rééquilibrage a été posée. Nous en parlions, nous ne faisions pas. Et il y a eu incontestablement une accélération suite à ces débats. Que ça n'ait pas été assez loin, bien évidemment. Qu'il nous reste encore beaucoup à faire, bien évidemment. À Lyon, nous avons 21 000 demandeurs, et sur ces 21 000 demandeurs, un tiers n'ont pas de logement. C'est-à-dire 7 000. C'est quand même pas 3 personnes. Et sur ces 7 000, bien heureusement, tous ne sont pas en squat ou sous les ponts, mais une partie, si. Donc, bien évidemment, qu'il nous reste encore beaucoup à faire. Et je partage l'idée de M. Renard pour dire que ce que nous produisons ne correspond pas, logement social compris, aux moyens des populations auxquelles elle s'adresse. Logement social, faute de financement, Nathalie l'a dit, suffisante d'aide à la pierre depuis 1977, ça c'est clair. Il y a nécessité d'efforts beaucoup plus considérables que ce qui était fait encore jusqu'à aujourd'hui, mais aussi pour les couches moyennes, l'accession a tendance, pour les villes tendues comme à Lyon, à devenir impossible pour une grande partie des couches moyennes. Donc c'est pour ça que notre priorité des priorités, c'est bien évidemment la production de logements sociaux. Olivier Brachet en a parlé, il y a eu beaucoup d'efforts. Il faut qu'on continue, on n'est pas au bout. Que ce soit dans l'acquisition-amélioration, où là on récupère des immeubles, même si c'est cher, puisque c'est dans les quartiers très construits du centre-ville la seule possibilité pour faire du logement social, même si c'est cher, il faut qu'on continue, et dans la production neuve. Mais c'est aussi pour les couches moyennes, parce que ce que nous produisons, je parle là du dispositif cellier, ça joue contre globalement la construction, puisqu'il y a concurrence sur les mêmes terrains. Et ça a tendance, bien entendu, à faire augmenter les terrains. Et qu'est-ce qu'on produit en dispositif cellier ? Souvent des petits logements, qui à Lyon trouvent encore des locataires, même à plus de 10 ou 12 euros du mètre carré, mais je ne crois pas que ça dure longtemps, et surtout, ces locataires ne restent pas. Ils ont un bébé, ils se tassent, ils ont deux bébés comme c'est des petits logements, ils s'en vont, et on les retrouve non pas dans l'agglo, mais à 40 ou 50 kilomètres. Donc, y compris la production... privé pour l'acquisition ne correspond pas aux revenus des ménages, ni même à la composition familiale. Donc il est clair qu'on ne peut pas continuer longtemps comme ça. Voilà.
Bien, je crois qu'il faut malheureusement arrêter là, parce que monsieur n'y est pas.
Alors monsieur le maire, vous avez la dernière question.
Oui, pardon, je crois qu'il était quand même normal que je me présente, Denis Bousson, je suis le maire de Saint-Dié au Mont-d'Or, et je crois que nous sommes quelques-uns des maires des Mont-d'Or à être ici présents. Je ne vais pas faire l'exposé de nos communes et les retards que nous avons sur nos logements sociaux, mais s'il y a une chose qui peut être prouvée par notre présence, c'est que nous en inquiétons, nous essayons de trouver des solutions. Alors j'apporte quelques remarques. Je vais commencer par remercier Patrice Tillet et Olivier Brachet d'avoir atténué les propos très militants de Nathalie tout à l'heure sur la loi SRU, qui est celle qu'il faut respecter et que l'on prend en compte. Mais j'ai trois remarques à apporter. La première, je pense que nous avons besoin de votre soutien, et je me tourne vers Olivier Brachet en tant que vice-président, Patrice Triet comme bailleur social, on a besoin de votre soutien lorsque nous montons des opérations, avec toutes les contraintes que vous avez évoquées, je ne vais pas revenir dessus. Ensuite, un peu de votre compréhension, c'est-à-dire que nous sommes souvent dans des situations où nous sommes bloqués, soit par des décisions qui nous dépassent ou par des impossibilités territoriales, d'aller dans notre démarche, et donc votre compréhension peut être utile. Et puis enfin, un dernier point qui est un peu plus technique, mais qui me semble important à évoquer. On a supprimé le PLS. On nous empêche de penser que l'accession à la propriété pourrait être un facteur d'action sociale ou de mixité sociale dans des communes comme celle que je représente. Je pense que ça mérite, sans occulter l'importance de la loi SRU, d'ouvrir un petit peu sur nos territoires cette possibilité dans le développement de nos projets urbains, aussi modestes soient-ils. Je rappellerai juste en chiffres, pour donner un donné un peu plus précise, la commune que j'administre possède plus de 60% de son territoire en zone agricole et naturelle, c'est-à-dire qu'il me reste 40% de territoire constructible sur lequel je n'ai que 7 hectares. On a eu 2, pour les termes un peu techniques, qui sont à urbanisation future. Donc donnez-moi des solutions pour aller à mes 20% de logements sociaux, même si je suis présent ici, parce que j'y suis très soucieux et respectueux de la mixité sociale telle qu'elle a été évoquée tout au long de ce débat. Voilà.
Merci beaucoup. Alain, je te laisse le mot de la fin.
Bon, en tout cas, merci donc à vous tous d'avoir accepté et d'avoir, je dirais, animé cette table ronde. Et merci à la salle d'avoir été patiente pendant les exposés et d'avoir répondu présent au moment des questions. Évidemment, nous n'avons pas clos le débat. En fait, j'ai eu l'impression que, en partant des quotas, eh bien évidemment, toutes, je dirais, les problèmes liés au logement social ont été évoqués, parce que ce sont des problèmes absolument d'une grande complexité, et qui, lorsqu'on ouvre une porte, il y a après une autre porte, etc. Et donc, il est évidemment très difficile de traiter en un temps relativement bref l'ensemble des questions. En tout cas, merci à vous tous.